Et vous voulez comprendre?
Oh, pas de problème. Je comprends toujours vite quand on m'explique longtemps. Donnez-moi la force de comprendre,
car ces visions m'assemblent. Bon, Martin, la nouvelle qui beaucoup est bruitée à travers le monde, oui. C'est la chute sur Terre de la station spatiale chinoise. C'est en fin de semaine que ça se passe.
Absolument. Ben, en fait, on prédit que c'est en fin de semaine, mais c'est difficile de prédire avec exactitude le moment où elle va toucher Terre. Pourquoi? Ben, notamment parce que les Chinois n'ont pas révélé grand-chose sur le design de la station. Donc, on n'a pas tous les éléments à notre disposition pour être capable de prédire quand va-t-elle tomber, où va-t-elle tomber, à quelle vitesse elle va tomber en traversant l'atmosphère. Donc, ça, c'est des éléments qui sont difficiles à prédire. Mais il faut savoir que c'est une station spatiale qui maintenant est abandonnée, hors contrôle, diminue d'altitude régulièrement, graduellement et de plus en plus. D'ailleurs, sa chute s'accélère vers la Terre. Et selon les meilleures prévisions, on s'attend à ce qu'elle tombe, elle touche Terre quelque part d'ici lundi ou mardi à peu près. Là. Donc, on pense que ça va être cette fin de semaine, bien entendu. Évidemment, vous doutez bien que la plupart des morceaux de la station ne vont pas survivre à la chute vers le sol, non. Parce qu'ils vont se désintégrer sous l'effet de la chaleur générée par le frottement avec ces pièces-là, là, en traversant l'air à très, très grande vitesse. Mais on estime quand même que certains morceaux vont survivre l'entrée dans l'atmosphère et vont toucher le sol. Donc là, évidemment, les gens vont se dire « Mais attends un peu, là, ça peut-tu nous tomber sur la tête? » Et la réponse, c'est non. En fait, je vous rassure immédiatement, ici à Montréal, ou en fait au Québec, là, il n'y a aucun danger que ça nous tombe dessus parce que la station spatiale ne passe pas à une latitude aussi élevée au nord du globe. Donc, elle ne dépasse pas les 42,7 degrés de latitude nord. Montréal est à 45. Donc, ça ne tombera pas à Montréal, ça c'est certain. Déjà, on élimine ça. Deuxièmement, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que... malgré la taille de la structure, parce que je vous rappelle, on parle ici de quoi de 19 000 livres, donc c'est quoi, 12 000, 13 000 kilos à peu près, quelque chose comme ça. C'est une station qui est composée de deux modules. Il y a un module qui est l'habitacle pour deux personnes, donc oui. Le module de vie, si on veut, là où les astronautes dormiraient. Et l'autre module, là où on retrouve les moteurs, les systèmes de support pour la vie sur la station, et aussi les panneaux solaires de la station. Donc c'est vraiment une station qui est assez volumineuse, qui est en deux morceaux. C'est pour ça qu'on sait qu'il y a des morceaux qui vont toucher Terre. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que remontons dans l'histoire un petit peu, voir, parce qu'il y en a d'autres objets qui sont tombés. Il y a à peu près un objet qui tombe par année de l'espace, qui va toucher le sol. À peu près. Un par année. Donc là, si on remonte dans le temps, ben, il y a par exemple un satellite, pardon, de la NASA qui est à peu près de taille similaire à la station chinoise qui est tombée en 2011. Il y a 26 morceaux qui ont touché Terre et parmi ces morceaux-là, il y en a qui pesaient plus de 330 livres. Donc on parle
quand même,
de,
quand
même
ça arrive avec...
comme un 200 kilos à peu près, là. C'est vraiment très, très rapide. Mais cette station, ce satellite-là était tombé dans l'océan Pacifique. Donc, on a réussi à le guider. Idéalement, on essaie toujours de les guider vers l'océan. Dans le cas de la station chinoise, pourquoi on est dans l'expectative? C'est parce qu'on a perdu toute communication avec la station en 2016. Donc, on ne sera pas capable d'utiliser les moteurs de la station pour la guider vers l'océan. Donc, on ne sait pas vraiment où elle va tomber parce qu'on ne peut pas interagir avec elle. Mais, par contre, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la probabilité de se faire frapper par un débris venant de l'espace, elle est de quoi, selon toi, mon cher Mathieu?
Oh, ça doit être quoi? Une sur 50 millions?
Et là, là, une sur 50 millions, c'est même très généreux. On parle ici de une sur un billion. Donc, sur 1 000 milliards de probabilités que ça nous tombe dessus. En fait, dans toute l'histoire, là, je vous dis, il y en a au moins un par année qui tombe sur nous. Là. Dans toute l'histoire, il y a un seul fragment spatial qui a touché ou qui a failli toucher un humain. Une seule fois. C'est une femme en Oklahoma. Il y a 2-3 ans environ. Elle avait reçu... en fait, elle n'avait même pas reçu il y a un morceau de métal qui lui avait effleuré l'épaule. Donc, ça n'est jamais arrivé qu'un être humain s'est fait frapper par un débris spatial. Et ça inclut même des catastrophes comme la désintégration de la navette Columbia qui avait fait grand bruit lorsque
Était au-dessus de l'océan, comme les autres fois où ça a été guidé aussi.
Oui, exactement. Mais dans le cas de Columbia, quand même, c'est la navette...
Pas trop loin de la côte, là,
elle a explosé au-dessus du territoire. Donc, il y a eu des débris là, sur presque d'une côte à l'autre des États-Unis. On parle de 82 000 débris de la navette aucun blessé, évidemment, à part les astronautes qui, eux, ont perdu la vie dans cette catastrophe-là. Donc, on ne s'inquiète pas. Mais ce qui est le fun ici, pour conclure là-dessus, c'est que, premièrement, cette station-là a existé dans l'espace parce que les Chinois voulaient prouver qu'il était possible d'envoyer cette technologie-là dans l'espace en prévision de futures stations spatiales qui seront plus volumineuses que celle-là, de un. Et deuxièmement, les chercheurs du monde entier se disent, là, tant qu'à avoir ça, même si les Chinois ne nous ont pas transmis beaucoup d'informations, on va au moins essayer de voir à quel point on est capable de raffiner nos prédictions sur le point de chute là, d'un objet comme ça.
Est-ce qu'il serait possible, selon toi, de voir apparaître dans le ciel, même si elle ne touche pas le Québec, là, de voir descendre du ciel, justement, si elle touchait, si elle tombait dans un rayon qui va, admettons, je ne sais pas moi, de quelques états, mettons de la Pennsylvanie jusqu'à la côte atlantique. Ouais. D'ici au Québec, est-ce qu'on pourrait le voir?
Bien, c'est sûr que ça va descendre très, très vite. Hein? Donc, ce qu'on risque plus facilement de voir, c'est les points lumineux dus à l'incandescence des métaux qui ont été chauffés par frottement. Parce que lorsqu'on parle d'étoiles filantes, ce sont en réalité des petites particules qui peuvent être aussi petites qu'un grain de sable qui traverse l'atmosphère, mais qui s'illuminent par frottement tellement ils sont chauffés. Donc, les morceaux chauffés de la station spatiale, oui, c'est envisageable de pouvoir les voir passer. Ça, oui, absolument. Mais faites-vous-en pas avec ça. Il y a peut-être une personne sur la Terre qui va avoir un gros poisson d'avril avec un morceau de la station chinoise, mais c'est très peu probable, honnêtement.
Les scientifiques ont découvert un nouvel organe humain.
Ça, c'est la grosse nouvelle de cette semaine. Un nouvel organe, puis là, des gens vont se dire, mais un peu, découvrir un nouvel organe
déjà
en 2018. Ouais, c'est ça, exactement. Mais en fait, c'est plus les techniques qui nous empêchaient de voir ce type d'organe-là, parce que cet organe-là a été baptisé, mais là, attention, là ça va prendre... Ça va prendre un consensus très large dans la communauté scientifique pour dire que oui, on accepte le fait que ça soit un organe. Un peu comme le débat qu'il y avait eu sur Pluton, est-ce que c'est une planète ou est-ce que c'est autre chose. Donc, dans le cas des organes, c'est la même chose. Ça va prendre c'est pas juste 2-3 scientifiques qui disent, hey, on a trouvé cet organe-là. Il faut qu'il y ait un consensus au niveau de la communauté scientifique. Consensus qui n'est pas encore là, bien entendu. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un organe que les chercheurs qui l'ont découvert ont appelé l'interstitium. Pour comprendre de quoi on parle, il faut savoir que l'être humain est composé à environ 60 % d'eau. Les deux tiers de cette eau-là se trouvent à l'intérieur de nos cellules. Donc, les cellules ont besoin d'eau pour fonctionner. Mais ça veut dire que le tiers de toute cette eau-là se trouve à l'extérieur des cellules et où? Mais on ne le sait pas jamais exactement. On sait que c'est à l'extérieur des cellules. On sait qu'il y a de cette eau-là dans tous nos tissus. Mais comment, sous quelle forme, comment ça se passe? Ça, c'est difficile à observer au microscope. Et c'était là la difficulté de voir un tel organe. Parce que le problème, c'est quand tu utilises du tissu mort et que tu le regardes au microscope, et là, on a dû utiliser des techniques de déshydratation pour avoir un échantillon qu'on peut observer au microscope, cet organe-là ne se voyait pas. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un réseau de cavités remplies de liquide. C'est exactement ce que c'est. Et cet organe-là tapisse plein d'endroits de notre corps. Il tapisse le dessous de notre peau. Donc, entre la peau et le reste du corps, il est là. Donc, c'est un réseau de cavernes remplies de liquide, si on veut, qui sont intercommuniquées les unes avec les autres dans tout notre corps. On retrouve cet organe-là, autour de notre... En fait, il tapisse pardon, l'intérieur de notre tube digestif, les poumons, le système immunitaire, urinaire. Il est autour de tous nos muscles. Donc, il est un peu partout. Et jusqu'à maintenant, on n'avait pas la technique pour le voir, mais des scientifiques ont utilisé une nouvelle technique qui combine un endoscope, un laser et des capteurs pour être capable de voir au microscope les tissus vivants, ce qui est absolument fantastique au niveau de ce qu'on peut observer. Donc, pour une fois, on a pu voir la présence de tout ce réseau de cavernes remplies de liquide. C'est très, très intéressant. À quoi ça servirait cet organe-là? Ça servirait d'amortisseur, tout simplement, pour nos organes internes. Vous savez, dans la vie de tous les jours, on se cogne, on se frappe, on s'accroche, ainsi de suite.
Okay.
Donc, ça serait essentiellement une protection pour nos organes, éviter, pour qu'ils puissent absorber le choc, sans qu'à chaque fois, on se retrouve avec des hémorragies internes. Donc, ce sera à suivre. Est-ce que la communauté scientifique considérera ça effectivement comme un organe à juste titre.
Merci beaucoup, M. Carly.
Très plaisir.
Bonne semaine. On se reparle la semaine prochaine. Il est 11h32.